Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Tout d'abord, François Cheng, sachez que nous sommes ravis de vous accueillir dans le studio de Canal Academy, la radio sur Internet des Académies, située dans les locaux de l'Institut de France, Quai Conti. Nous sommes très honorés que vous ayez accepté de venir parler sur notre antenne de votre dernier ouvrage, 5 méditations sur la beauté, publié chez Albin Michel. François Cheng, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
François Cheng, vous êtes connu et reconnu pour votre œuvre de traducteur, de poète, romancier, philosophe, pour vos ouvrages sur la peinture chinoise et pour être l'animateur d'un dialogue culturel fécond entre la France et la Chine. Vous avez été élu à l'Académie française en 2002 au fauteuil 34, occupé par votre prédécesseur Jacques de Bourbon-Bussée qui avait lui-même succédé à Maurice Genevoix. Peut-être est-il de rappeler que vous êtes né en Chine et que vous êtes arrivé en France, dont vous ne connaissiez pas la langue, en 1948 à l'âge de 20 ans. C'est un long chemin qui vous a fait parvenir jusqu'ici. Vous avez la particularité de vouer une véritable passion à la langue française, à laquelle vous avez consacré un livre intitulé « Le dialogue » en 2002, dans lequel vous écrivez « Le destin a voulu qu'à partir d'un certain moment de ma vie, je sois devenu porteur des deux langues, chinoise et française, et surtout deux langues de nature si différentes qu'elles creusent entre elles le plus grand écart qu'on puisse imaginer. Alors vous avez opté finalement pour une des deux langues, l'adoptant comme outil de création, sans que pour autant celle dite maternelle soit effacée purement et simplement. Dans votre dernier livre, 5 méditations sur la beauté, publié chez Albin Michel, vous n'avez pas manqué de poursuivre le défi d'écrire en français, en puisant aux sources de la langue et de la culture chinoise pour nourrir votre réflexion et faire découvrir une fois encore au public non initié et poètes et penseurs de Chine, d'Europe, réunis dans un même élan, celui de votre écriture. Ce livre est avant tout une histoire de rencontres avec vos amis, artistes ou scientifiques, philosophes ou psychanalystes, écrivains, connaisseurs ou non de l'Orient et de la Chine, que vous avez sollicités pour échanger avec vous sur le thème de l'existence de la beauté, pour évoquer une réalité apparemment inutile, au cours de 5 soirées. Ensuite est venu le temps de l'écriture et vous avez voulu offrir au plus grand nombre le fruit de ces 5 méditations. Alors, François Cheng, vous avez grandi près du mont Lu, comme vous l'écrivez dans la première méditation, et ce fut pour vous la première expérience de la beauté. Vous dites que la montagne s'est offerte à votre regard. Pouvez-vous nous raconter cet unique instant de vie où vous avez fait l'expérience de la beauté?
Oui, vous parliez de la montagne. Hein. Donc, disons, au sortir de mon enfance, donc, entre mon enfance et mon adolescence, ma famille avait l'habitude de passer tous les étés au Mont Loup. Le Mont Loup, on peut le considérer aujourd'hui encore comme un des plus beaux lieux de la Chine au point de vue du paysage, de sa situation exceptionnelle. En fait, c'est une petite chaîne de montagnes qui, à cause de sa situation, parce que cette montagne surplombe le fleuve Yangtze, et puis derrière, c'est tout un ensemble de lacs. Donc, il y a des vapeurs qui montent vers la hauteur, qui forment des nuages et des brumes. Et donc, la montagne est souvent cachée dans des nuages et des brumes, et de temps en temps, ces nuages et brumes se déchirent, et tout d'un coup, la montagne se révèle dans toute sa splendeur. Donc, cette montagne a toujours fasciné les Chinois par sa présence un peu mystérieuse, avec sa végétation bien sûr, ses rochers aussi. Donc cette montagne a été fréquentée depuis toujours, depuis 2000 ans, par des mystiques, c'est-à-dire des moines, et puis des artistes, des peintres et des poètes. Et vers la fin du 19e siècle, cette montagne a été découverte par les Occidentaux, parce que tout au long du fleuve Yangtze, il y avait beaucoup de missionnaires, pour la plupart des missionnaires protestants, donc des pays anglo-saxons, des Américains, des pays nordiques aussi, et puis des Français aussi. Donc en été, ils ont l'habitude aussi de monter sur le mont Loup pour trouver un peu de fraîcheur. Et donc, ils ont construit beaucoup de chalets, de cottages, un peu au centre. Hein. Tandis que tout le reste, dans les environs, la montagne garde encore sa beauté un peu virginale, si on peut dire. Donc, c'est là, encore une fois, je le répète, entre mon enfance et mon adolescence, en l'espace de quelques années, j'ai eu ce choc de la beauté de la nature à travers cette montagne. Donc ça, c'est ma première expérience de la beauté.
Vous avez dit dans cette première méditation, faire l'expérience de la beauté. C'est un choc.
Oui.
Mais qu'est-ce que vous entendez par...
Vous savez, il y a un poète allemand, c'est Hölderlin, il a dit que j'ai été terrassé par Apollon. Apollon, bien sûr, à ses yeux, représente cette beauté idéale incarnée par la Grèce. Et donc, on peut avoir le choc devant la beauté du monde. Par la suite, ce choc est doublé d'un autre choc, puisque tout à l'heure, j'ai dit que le Mont Loup a ce site particulier. Ce Mont Loup hérite de toute cette ancienne tradition chinoise, de la pensée mystique et puis de la peinture, des poètes. Et puis par la suite, puisque c'est découvert par les Occidentaux, donc au Mont Loup, j'ai eu ce choc, c'est-à-dire de la beauté du corps humain, représenté avant tout par des femmes, des jeunes femmes occidentales. Parce que le Mont Loup, il y a partout des cascades, des lacs formés par ces cascades. Donc, sur les chemins, on rencontre très facilement des femmes occidentales en maillot de bain qui se rendent au pied de ces cascades pour se baigner. Donc, ça a été un choc aussi. Par la suite, j'ajoute encore, puisque je suis sur ce chapitre, et j'ai pu d'abord regarder des tableaux chinois représentant ces paysages de brume et de nuages. Et puis, plus tard encore, une des tantes a rapporté de son voyage en France des reproductions des tableaux du Louvre, notamment des tableaux de la Croix, de Ingres, de Chassériot, enfin, qui représentent aussi cette beauté féminine idéalisée, plus ou moins idéalisée aussi, oui.
Alors, justement, vous parlez du choc de la beauté dans la première méditation, et puis après avoir évoqué à la fois ses souvenirs d'enfance et ses expériences.
Tout cela se passait lorsque j'avais à peu près 7, 8, 9 ans, vous voyez. Ma sensibilité s'était éveillée à tout ce monde charnel et visible, oui.
Justement, très rapidement, en 1936, vous faites l'expérience de la guerre. Vous êtes
C'est en 37.
En 37.
En 37, je n'avais que 8 ans.
Et là, vous êtes témoin?
Là, donc j'ai reçu un autre type de choc, infiniment plus violent, puisque c'est la guerre de résistance que les Chinois ont menée contre les envahisseurs japonais. Mais un an après, lorsque les Japonais ont occupé la capitale qui se trouvait être la ville de Nankin, et il y a eu le célèbre massacre de Nankin qui a entraîné presque 300 000 victimes en quelques semaines. Hein. Donc j'ai confronté au phénomène du mal que la vie humaine engendre. Ici, j'ajoute tout de suite, hein, je parle du massacre de Nankin perpétré par l'armée japonaise, mais dès cette époque-là, je savais que le mal est un phénomène universel, ça relève de l'humanité entière. Donc dès cette époque, ce n'était pas d'un point de vue nationaliste que j'ai ressenti tout cela.
Vous l'aviez compris, et s'interroger sur la beauté en a été justement peut-être plus
facile. Oui, déjà dès cette époque-là, je peux dire que je suis devenu un être déchiré. Je savais que plus tard, je devrais faire face à ces deux phénomène extrême qui constitue justement les extrémités de l'univers vivant. Donc d'un côté le mal et de l'autre la beauté.
Alors quel est le mystère de la beauté ?
Mais j'ajoute encore, je savais aussi que je dois non seulement affronter l'un et l'autre, mais je dois les affronter ensemble. Parce que j'ai compris que très tôt que nous ne pouvons pas combattre le mal sans montrer l'autre extrémité, c'est-à-dire la beauté du monde. Parce que je savais déjà que c'est la beauté du monde qui justifie notre existence terrestre, qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, si je ne tiens compte que d'un côté, c'est-à-dire que la beauté, je serai angélique ou... Par contre, si je me fixe uniquement sur le phénomène du mal, je sais qu'on ne peut pas résoudre le problème.
Qu'est-ce qui rend possible la beauté ?
Pour moi, parce que... plus tard, bien sûr, j'ai réfléchi sur ce problème de la beauté, qui reste un mystère. Parce que si on se réfère aux trois grands attributs de l'être dégagés par Platon, on devrait dire que c'est la vérité, c'est le vrai et la vérité qui doit occuper la place suprême. Mais la vérité, je le comprends, puisque l'univers est là. Donc, pour que ça puisse fonctionner, il faut bien qu'il y ait une vérité. Donc, je comprends la nécessité de la vérité. Donc, après la vérité, on devrait probablement placer immédiatement après la bonté, le bien et la bonté. Puisque ça, j'en comprends la nécessité aussi, parce que sans le bien, sans la bonté, cette aventure de la vie ne peut pas perdurer. Et donc, il faut un minimum de bonté pour que cet univers vivant puisse poursuivre son cours. Par contre, la beauté est une chose qui est omniprésente, insistante même, puisque chaque jour il y a l'aube qui est là, chaque soir il y a le couchant qui est là.
Elle s'impose à nous.
Qui nous frappe par leur magnificence, et sans parler de toute la nature et le ciel étoilé, mais sans que on en comprenne la nécessité, comme si c'était un superflu ou un ornement. Mais peu après, bien sûr, j'ai su réfléchir. Je pars d'une interrogation un peu naïve. Je me suis dit, on peut imaginer un univers qui ne serait que vrai, sans qu'aucune idée de beauté ne vienne l'effleurer. Ce serait alors un univers uniquement fonctionnel, où se meuvent un ensemble d'éléments neutres, uniformes, indifférenciés. Et il s'agit là d'un univers de robots, ou alors un univers concentrationnaire, où tout est réduit à un anonymat. Ce n'est pas l'univers de la vie. Pour qu'il y ait l'univers vivant, pour qu'il y ait vie, il faut que chaque entité, disons, vivante forme une unité organique qui comporte sa capacité de croissance et de transformation. Alors là, on constate un phénomène qui est d'ailleurs la réalité de notre univers vivant, c'est que l'immense aventure de la vie a abouti à chaque unité vivante, et chaque unité vivante est toujours unique. Et donc, c'est à chaque herbe, à chaque fleur, à chaque femme, à chaque homme.
Être humain.
Et donc, un beau jour, j'ai compris que l'unicité des êtres, c'est le commencement de la beauté. C'est-à-dire, lorsque cet univers est peuplé d'un ensemble d'êtres uniques, on n'a plus affaire à un univers qui n'est peuplé que de figures ou que de robots, mais de présence. C'est à cause de notre unicité que chacun devient une présence. Donc l'univers n'est pas peuplé de figures, mais de présence. Donc, à partir de la présence, c'est le commencement de la beauté.
Et vous dites, l'unicité des êtres transformant les êtres en présence a rendu possible la beauté.
Tout à fait, parce que étant présence, d'abord, c'est le commencement du langage, c'est la possibilité pour nous de dire « je » et « tu », et c'est le commencement de l'amour aussi, c'est-à-dire S'il n'y a pas d'unicité, si on est tous pareils, il n'y aurait pas de langage, il n'y aura pas même l'idée de l'amour, vous savez. Et la beauté vient de là, c'est-à-dire chacun étant une présence. Cette présence, à l'instar d'une fleur ou d'un arbre, n'a de cesse de tendre vers, disons, le plein éclat de sa présence au monde. C'est la définition même de la beauté. Donc le mystère de la beauté, c'est le mystère de notre existence au monde, c'est pour moi.
Je vous propose que nous marquions une courte pause et nous retrouverons François Cheng pour nous parler de son dernier livre « 5 méditations sur la beauté » dans quelques instants.
Écoutez Canal Académie.
Nous retrouvons François Cheng dans l'émission Au fil des pages pour nous parler de son dernier ouvrage paru chez Albin Michel, 5 méditations sur la beauté. François Cheng, vous venez de nous parler du mystère de la beauté qui contient le mystère de notre destin. Pouvez-vous approfondir cette pensée ?
Oui, je voudrais dire que, en réalité, notre sens du divin et du sacré vient de la constatation de la beauté du monde. Et je dirais même que notre sens du sens vient aussi de cette expérience de beauté que nous vivons, parce que, encore une fois, d'après moi, notre sens du divin et du sacré ne vient pas seulement du vrai, parce que, après tout, le vrai nous dit qu'il y a un univers qui est là, qui fonctionne, qui est effectif. Mais le vrai ne nous donne pas forcément le sens du divin et du sacré. Le sens du divin et du sacré vient de cet émerveillement lorsque nous observons cet univers qui se révèle à nous par sa splendeur. Donc, c'est une présence qui nous éblouit et nous subjugue et qui suscite en nous ce sentiment de reconnaissance et ce besoin de célébration. C'est à partir de là que nous avons une idée de quelque chose comme si ça comporte une sorte d'intentionnalité. Donc, c'est à partir de là qu'on a ce sentiment d'une présence pleine de sens, d'où l'idée du divin et du sacré. Donc, je continue un peu. Le sens du sens. Parce que, encore une fois, ce n'est pas à cause du vrai que nous avons forcément l'idée du sens. Encore une fois, le vrai nous donne l'impression que c'est un univers qui fonctionne, qui marche à peu près comme il faut. Mais c'est la beauté qui nous donne cette idée du sens. Parce que chaque être, je l'ai dit tout à l'heure, à l'instar d'une fleur ou d'un arbre, n'a de cesse de tendre vers une direction, c'est-à-dire vers le plein éclat de sa présence au monde. Et dès que je prononce ce mot « direction », c'est déjà le commencement du sens. Donc je rappelle le mot magique en français, le mot « sens », qui comporte trois significations, c'est-à-dire sensation, direction et signification. Et donc, c'est bien la beauté qui nous donne cette idée que tout être en tant que présence tend vers quelque chose, vers sa propre plénitude, mais aussi dans sa relation avec la plénitude des autres êtres, voyez, ça crée une sorte de réseau de sens, oui.
D'échange de sens.
D'échange de sens.
Vous voilà. Parlez beaucoup du souffle dans le.
Ah, le souffle, oui.
Dans votre ouvrage.
Oui, tout à fait. Parce que la pensée chinoise est fondée sur l'idée du souffle. Et donc, à partir de l'idée du souffle, la pensée chinoise, dès le début, a engendré une conception unitaire et organique de l'univers, où tout se relie et se tient. Et qu'est-ce qui relie, qu'est-ce qui tient? C'est justement le souffle qui incarne cette unité originelle et qui continue à animer cet univers vivant, animer tous les êtres qui peuplent cet univers vivant. Donc, c'est le souffle qui a engendré cette conception un peu organiciste d'un univers et non pas mécaniciste d'un univers. Ça, c'est à peu près la meilleure part de la pensée chinoise. Cette pensée a connu beaucoup d'avatars, connaît beaucoup de manques aussi, mais c'est cette part-là peut constituer éventuellement un apport de la pensée chinoise à la pensée universelle. Je continue un peu. Le souffle dans son fonctionnement est ternaire, parce que tout à l'heure je parle de c'est le souffle qui a engendré tout l'univers, mais dans son fonctionnement, c'est-à-dire lorsque l'univers est là, on reconnaît trois types de souffle. Ces trois types de souffle, les Occidentaux commencent à les connaître assez bien, puisqu'il s'agit du souffle yin, du souffle yang, et de ce qu'on appelle le troisième souffle, le souffle du vide médian. Parce que j'ai dit que la pensée chinoise est ternaire, c'est parce que entre le yin et le yang, qui sont tous les deux des souffles vitaux, les penseurs chinois ont introduit ce troisième souffle. Parce que sans ce souffle du vide médian, le yin et le yang se seraient trouvés dans une position duel ou dualiste, alors que les Chinois ont cherché à transcender ce dualisme.
Qui est au contraire très présent
donc,
dans la pensée occidentale.
Cette idée ternaire a favorisé l'idée d'échange, d'interaction, et la beauté en fait relève de ce processus d'interaction et d'échange. Par contre, j'ajoute, si vous permettez, le dualisme a fait la grandeur de la pensée occidentale. Ça, donc il faut reconnaître cette grandeur.
François Cheng, vous avez également abordé dans cet ouvrage la question du rapport de la beauté et du temps, et par conséquent de la perspective de la mort. Pouvez-vous nous en dire quelques mots, s'il vous plaît?
Oui, tout à l'heure nous avons parlé de l'unicité des êtres. Donc dans l'espace, les êtres qui se font face se remarquent, se démarquent par leur unicité. Mais il y a aussi l'unicité dans le temps. Parce que pour chaque être, chaque instant de sa vie, chaque épisode de sa vie constitue toujours une unicité. Et comme la beauté, le mode d'être de la beauté est toujours épiphanique, c'est-à-dire la beauté apparaît là à chaque instant. Et puis, une fois cette expérience de beauté vécue, elle donne l'impression de disparaître. Donc, pour nous, la beauté est toujours liée à l'instant, d'où cette impression tragique de la beauté, c'est-à-dire la beauté ne dure pas. Mais en même temps, je dois dire qu'on est hanté par cette conscience de notre mortalité. Mais en même temps, je voudrais donner un sens un peu plus positif à cette idée de l'instant. C'est vrai que nous ne possédons pas le temps, puisque le temps s'écoule toujours et presque en pure perte. Et en même temps, nous possédons quelque chose de façon absolue, c'est justement l'instant. C'est-à-dire, comme le mode d'être de la beauté, c'est d'être toujours comme une épiphanie dans l'instant. Donc nous devons essayer de nous éduquer pour accueillir ces instants exceptionnels où la beauté advient. Et si on n'est pas un travail intérieur, spirituel, on est toujours dans cette position d'accueil pour vivre la beauté qui advient. Dans ce cas, au lieu de donner un ton toujours tragique à cette beauté éphémère, c'est une manière positive de vivre la beauté. C'est peut-être aussi notre manière de vivre contre la mort aussi, c'est-à-dire de valoriser les instants, valoriser cette beauté qui advient à chaque instant, oui.
Je vous propose de marquer une courte pause oui. Et nous retrouverons François Cheng un peu plus tard dans Au fil des pages sur Canal Académie.
Écoutez Canal Académie.
Nous retrouvons François Cheng dans l'émission Au fil des pages pour nous parler de son dernier ouvrage paru chez Albin Michel, 5 méditations sur la beauté. François Cheng, vous abordez dans votre ouvrage le thème de la création artistique placée sous le signe du beau. Comment la définissez-vous ?
Tout à l'heure, j'ai dit que la beauté est en échange et est en interaction. Ça peut étonner peut-être un esprit occidental parce que un esprit occidental est marqué, bien sûr, par le dualisme, c'est-à-dire, quand je dis dualisme, c'est la séparation de la matière et de l'esprit, séparation du sujet et de l'objet, qui a fait la grandeur de la démarche occidentale, je le répète. Mais à cause de cet esprit dualiste, on a tendance à séparer le sujet et l'objet. On dit, mais il y a une beauté objective qui est là. Mais tant qu'il s'agit de la matière, de l'analyse de la matière, ça c'est très bien, c'est même nécessaire, cette séparation. Mais l'expérience de la beauté, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire, bien sûr, j'ai dit que l'univers est beau, que vous voyez ou pas cette beauté, elle est là. Et pourtant, pas tout à fait. Parce que nous nous croyons complètement perdus au sein de cet univers. On n'est qu'un grain de sable au milieu du système solaire. Et le système solaire n'est qu'un petit coin au sein de la galaxie, alors qu'il y a des milliards de galaxies. Mais un Chinois ne voit pas tout à fait la chose ainsi. Je crois que tout le monde a vu plus ou moins un tableau chinois. D'ailleurs, un œil occidental ne manque pas de remarquer que au sein de ce paysage représenté par des grands rouleaux, on voit un petit bonhomme qui est là. Pour un occidental qui est habitué à toute cette grande tradition de la Renaissance, c'est-à-dire l'homme est campé au premier plan alors que le paysage est relégué en arrière, on dit mais ce petit bonhomme, il est noyé dans la nature, il est perdu dans le grand tout. C'est la première impression. Mais pour un Chinois, c'est le contraire. Même pour un œil occidental, lorsqu'il commence à vraiment contempler ce paysage chinois, au début, il admire les montagnes, les arbres, les brumes, les fleuves et tout ça. Mais il finit quand même par fixer son regard sur ce petit bonhomme qui est là. Et il va s'apercevoir que ce petit bonhomme, il est situé quelque part au cœur du paysage. Et il est en train de contempler ce paysage. Et petit à petit, le spectateur occidental, comme un spectateur chinois, finit par se mettre à la place de ce petit bonhomme qui a l'air perdu. Mais en fait, on finit par se mettre à sa place et on contemple le paysage à partir de sa position. Parce que ce petit bonhomme, en réalité, est toujours situé quelque part à un point assez vital. Et on s'aperçoit que c'est autour de lui que le paysage tourne, s'organise. Non seulement ça, et on finit par penser qu'il est l'œil éveillé et le cœur battant du paysage. Eh bien, c'est ainsi que les Chinois conçoivent notre place au sein de l'univers. On a l'air perdu, complètement ignoré de cet univers vivant, et pourtant, le ciel étoilé, le soleil couchant, c'est nous qui les avons vus. Sinon, c'est un peu en pure perte. Donc, nous sommes là, nous faisons partie du programme de l'univers vivant. Peut-être il y a d'autres êtres vivants dans d'autres planètes, mais ça n'enlève en rien notre rôle, notre grandeur. C'est être, encore une fois, je le répète, l'œil éveillé et le cœur battant de l'univers. Sinon, tout est inutile et en pure perte. Donc, dans ce sens-là, la beauté, bien sûr, il y a, par exemple, une scène du couchant. Ça a lieu toujours quelque part, sur la mer ou sur une montagne. Donc, cette scène du couchant est toujours composée d'un ensemble d'éléments. C'est déjà une rencontre entre ces éléments. Donc, c'est déjà un échange, une interaction entre ces éléments qui forment une scène de beauté. Mais il faut que cette scène soit captée par un regard.
Par un œil.
Et c'est une rencontre à un autre niveau, un échange, une interaction à un autre niveau. Donc, le soleil couchant est là. Mais il faut qu'à un moment donné, il y a cet homme qui passe par là, qui a capté cette scène. Et il en est ému. Et cette beauté, tout d'un coup, devient une beauté émouvante. Et cet homme qui capte cette scène, et son regard, à ce moment-là, rencontre encore d'autres regards, c'est-à-dire les regards de son souvenir, parce qu'il a vécu d'autres expériences de beauté dans son passé, comme Proust l'a prouvé. C'est-à-dire, chaque scène de beauté rappelle d'autres scènes de beauté vécues par vous. Donc, il y a encore une rencontre, c'est-à-dire un échange et une interaction à un autre niveau. Et peut-être, au bout, lorsque un homme est vraiment sensible et ouvert, il sait que lorsque son regard capte cette scène de beauté, il en est ému, et il a peut-être envie de rencontrer un autre regard, c'est-à-dire le regard initial de l'univers. Un Chinois accepte que cet univers qui s'est créé est capable de se voir créé. Il ne faut pas croire que l'homme est le seul être malin qui a vu ça. En fait, cet univers vivant qui s'est créé a été capable de se voir créé. Donc, de regard en regard, de nostalgie en nostalgie, l'homme, pour peu qu'il soit un peu spirituel, a envie de retrouver ce regard initial d'un univers qui a peut-être justement été ému de cette beauté du monde, comme nous autres aussi. C'est en ce sens que je dis que la beauté n'est pas une médaille objective qu'on accroche là. La beauté implique toujours une rencontre, un échange, une interaction.
Vous insistez beaucoup dans votre ouvrage.
Il suffit de citer Cézanne. Un tableau de Cézanne, est-ce que c'est un produit purement subjectif? Bien sûr que non. Ça résulte de son échange, de son dialogue, de son interaction avec la Sainte Victoire. Donc, ce qui est né là, c'est un 3 qui, né du 2, prenant la meilleure part du 2, dépasse le 2. C'est-à-dire, un tableau de Cézanne, né de l'interaction de Cézanne et de la Sainte Victoire, et en même temps, il transcende la Sainte Victoire et Cézanne lui-même. Vous voyez, c'est le mystère de la création artistique, qui est un processus ternaire.
Après avoir évoqué les beautés de la nature et la création artistique, abordons la beauté humaine, la beauté qui a trait à l'humain. Vous distinguez plusieurs types de beauté.
Jusqu'ici, en effet, on n'a évoqué que la beauté de la nature, encore que tout au début de notre conversation, oui, j'ai dit que j'ai eu le choc de la beauté du corps humain. Oui. Mais seulement l'homme est un d'être autrement plus complexe qu'une rose ou qu'un arbre. Encore que l'homme a beaucoup à apprendre d'une rose et d'un arbre. Mais l'homme étant un être de l'esprit, donc il y a la beauté physique. Mais il y a aussi la beauté de l'esprit, c'est-à-dire la beauté morale, la beauté spirituelle aussi. Donc, dès qu'on aborde le problème de la beauté humaine, on a affaire à une problématique d'une très grande complexité. Et j'ajoute, l'esprit humain peut être dévoyé. Tout à l'heure, je parle du mal. Bien sûr, il y a le mal engendré par des calamités naturelles ou par des maladies. Mais le mal le plus terrible, c'est quand même le mal que l'homme inflige à l'homme. Lorsque l'esprit humain est dévoyé, parce que l'homme est un être à la fois libre et intelligent, et lorsque son esprit est dévoyé, il est capable des cruautés inimaginables, donc il peut créer des abîmes presque sans fond, y compris la beauté. C'est-à-dire, le mal humain peut transformer la beauté en un instrument de tromperie, de domination, qui mène toujours vers la destruction et la mort. Dans ce cas, on élimine tout de suite cette beauté, c'est-à-dire une beauté instrumentalisée comme un outil de
perversion. Et de destruction.
Et là, il suffit de dire qu'une beauté qui n'est pas fondée sur le bien est-elle encore belle ? C'est-à-dire une beauté qui mène vers la destruction et la mort, c'est la laideur même. Donc, ce n'est pas difficile pour moi de distinguer la vraie beauté de la fausse beauté. Ceci dit, je reviens à votre question, c'est-à-dire la beauté humaine. Il y a d'abord la beauté physique, ça on ne peut pas nier. D'ailleurs, c'est surtout cette beauté-là qu'on peut instrumentaliser. Mais n'empêche que la beauté physique est là, qui en soi est une chose merveilleuse, c'est-à-dire surtout pour moi, la beauté féminine, c'est un miracle de la nature, parce que la poésie chinoise applique toutes les métaphores de la nature à un corps de la femme, c'est-à-dire les perles, les jades, les brumes, les nuages, les collines, les montagnes, les fleurs, les oiseaux, et puis les gazelles, les panthères, tout ça. Donc, c'est un miracle, c'est un concentré des éléments, de beaux éléments de la nature, c'est un miracle de la nature. Seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dis que l'immense aventure de la vie a abouti à chacun de nous. Donc la vraie beauté relève de l'être et non pas de la voix. C'est-à-dire, c'est quelque chose, une promesse qui est posée là depuis l'origine de l'univers. C'est-à-dire, est contenue dans la matière. C'est-à-dire, cette matière charnelle ne pouvait pas ne pas éclore un jour en cette splendeur, en cette magnificence du monde charnel. Donc, parlant de la beauté physique, nous devons dire que la vraie beauté, quand même, vient de l'intérieur de l'être, et non pas seulement une combinaison de traits extérieurs, qui est le désir de beauté, c'est l'élan vers la beauté qui fait la beauté d'un être. C'est pourquoi, depuis la femme de la caverne jusqu'à Mona Lisa, il y a comme un saut qualitatif. Mais est-ce que ce saut consiste uniquement en une évolution physiologique? Non, parce que ce qui fait la beauté de Mona Lisa, bien sûr, il y a un certain agencement harmonieux des traits. Mais ce qui fait le mystère de la beauté de Mona Lisa, c'est son regard, c'est son sourire, c'est peut-être sa voix aussi, qu'on n'entend pas, mais comme ses lèvres étaient un peu entrouvertes, il y a un vouloir dire qui est là, qui fait la beauté de son être. Donc, même au niveau physique, la vraie beauté est le résultat d'une conquête de l'esprit. Je veux dire, depuis la femme de la caverne, c'est une conquête de l'esprit. C'est la conscience de la beauté, c'est le désir de beauté, c'est l'élan vers la beauté.
Vous dites « La bonté porte garant de la qualité de la beauté irradie la bonté et la rend désirable. »
Tout à fait. Comme je l'ai dit, une beauté qui n'est pas fondée sur le bien n'est plus belle, c'est la laideur même. Donc, on a compris que la vraie beauté a partie liée avec la bonté. D'où vient votre phrase ? Ici, si vous permettez, je termine en citant Bergson. qui est notre prédécesseur à l'Académie, il a dit une phrase décisive pour moi. Il a dit que l'état suprême de la beauté est la grâce. Mais dans le mot grâce, on entend bonté. Car la bonté, c'est cette générosité d'un principe de vie qui se donne indéfiniment. Donc, dans le mot grâce, la beauté et la bonté ne font qu'un.
Sur ces belles paroles, François Cheng, nous allons conclure cet entretien. Je rappelle que vous avez écrit donc les 5 méditations chez Albin Michel. Je souhaiterais, avant que nous nous séparions, que vous nous lisiez une poésie tirée de « À l'Orient de tout », qui sont vos œuvres poétiques publiées chez Gallimard.
C'est ça. Ce recueil contient les 5 recueils de poésie que j'ai publiés jusqu'ici, oui. Et donc, je vais peut-être vous lire un poème qui est tiré du dernier recueil, qui s'intitule « Le livre du vide médian ». D'ailleurs, justement, tout à l'heure, j'ai évoqué le souffle du vide médian.
Donc,
ça rejoint un peu. Justement, j'ai dit que la beauté est le résultat d'un échange, hein, implique toujours un échange et une interaction. Donc, la vérité aussi relève du même processus. Donc, si vous permettez, je lis le premier poème de ce recueil, « Le livre du vide médian ». Le vrai, toujours, est ce qui naît d'entre nous et qui sans nous ne serait pas. Naît entre nous selon le souffle du pur échange. Le vrai, toujours, est ce qui tremble entre frayeur et appel, entre regard et silence. Ici, il me semble que le vrai rejoint le beau.
François Cheng, merci beaucoup. Merci de votre venue et de ce très beau moment partagé avec vous.
Merci beaucoup.